Seigneur, nous te donnons la communion ce soir. Nous sommes ouverts pour que tu nous parles. Tu es un Dieu qui parle. Et nous voulons aussi écouter ce que tu veux nous donner comme instruction pour continuer et arriver au but. Et pas seulement pour nous, mais d'autant plus pour ta gloire, pour l'accomplissement de ton plan. Que toi, Seigneur, notre Père, tu sois satisfait. Bénis-nous tous. Nous avons besoin de toi en tout temps. Louez le Seigneur. Jérusalem, vraiment. Merci. C'est un très bon chant. Jérusalem est au milieu du monde et tous les problèmes et toutes les disputes et tous les conflits, il s'agit toujours de cette ville, Jérusalem. Pouvez-vous vous imaginer cela? Et le plan de Dieu n'a jamais changé. Du temps de l'ancienne alliance, Dieu avait choisi Jérusalem, Sion. Jérusalem est pour la maison, mais Sion est pour le royaume. Ainsi, Jérusalem est très importante. Ce chant était bien pour ce soir. Mais nous devons savoir que la maison de Dieu n'est pas seulement une maison où il habite. Si on voit le tabernacle dès le début, la maison de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Et Sion est aussi quelque chose de particulier. Et on voit comment Dieu bâtit sa maison. Mais on n'a pas pensé que sa maison avait besoin d'un sacerdoce. Nous disons juste que nous voulons bâtir la maison, que nous voulons la bâtir ensemble. Mais personne n'a pensé au sacerdoce. Parce que servir Dieu, c'est très particulier. Nous voulons tous servir Dieu, je le sais. Mais la Bible nous montre que nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Comme ça nous plaît. La Bible nous montre très clairement. Dieu a besoin d'un service particulier. Et ça, c'est le sacerdoce. C'est pourquoi on voit ça déjà dans Exode. Lorsque Dieu a montré à Moïse qu'il devait bâtir une maison, ce tabernacle, et comment il devait être bâti. Ça devait être fait selon le modèle céleste, exactement selon le modèle. Si nous bâtissons une maison pour Dieu, comment est-ce que nous bâtissons? Tant de gens bâtissent aujourd'hui des églises. Combien de sortes d'églises y a-t-il? Je ne peux même pas compter, parce qu'il y en a tellement, de A à Z, n'est-ce pas? Combien? D'églises différentes y a-t-il en Allemagne? Et laquelle est bâtie selon le modèle céleste? Et si aujourd'hui nous bâtissons la maison de Dieu, comment est-ce que nous devons la bâtir? Venir ensemble, avoir une salle de réunion, chanter, prier, louer, remercier, donner un message, louer le Seigneur, donner de l'argent, et ensuite nous allons à la maison. Est-ce que ce n'est pas ainsi? Aussi en Suisse, n'est-ce pas? Chacun bâtit comme il veut. Sais-tu ce que Abraham a dit au tout début Il cherche une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est celui qui bâtit. Et nous devons bâtir selon le modèle céleste. Même l'arche que Noé a bâtie, est-ce qu'il pouvait juste faire un bateau? Si tu étais Noé, comment aurais-tu bâti cette arche? Dieu lui a donné des instructions très précises. Si tu ne bâtis pas selon les instructions de Dieu, alors je ne suis pas sûre qu'elle flotte vraiment. Probablement qu'elle aurait aussi coulé. Et si nous bâtissons la maison de Dieu selon nos idées, comme le Seigneur l'a dit, si quelqu'un bâtit une maison, pas sur le rocher, mais sur le sable, lorsque le vent vient et la pluie, alors tout est ôté. Ça ne peut pas subsister. Ça ne peut pas subsister, résister aux épreuves. C'est pourquoi Jérusalem est une ville bâtie par Dieu. Elle n'est pas faite de main d'homme. C'est aussi très clairement écrit. Étienne a aussi dit, Dieu n'habite pas dans une demeure faite de main d'homme. C'est impossible. L'édifice de Dieu est trop merveilleux. Est trop merveilleux. Il a dit, je veux bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais partout, nous voyons que les portes du séjour des morts prévalent. Ce n'est que ce que le Seigneur bâtit qui subsiste, qui peut résister à toutes les épreuves, comme nous. Chacun de nous tombe lorsqu'une épreuve vient, une tentation. Lorsqu'une épreuve vient, on ne peut pas résister, mais le Seigneur a résisté à toutes les épreuves. Il a fait la meilleure note. Il n'a pas juste réussi, mais il était vainqueur. Lui est le seul qui est capable de bâtir la maison de Dieu. C'est le seul qualifié. Tous les autres bâtiments vont tomber. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention de voir comment la maison de Dieu est bâtie, avec des pierres vivantes, pas juste avec des pierres quelconques. Es-tu une pierre? C'est une pierre vivante. Même une pierre précieuse. Dieu aimerait faire de nous des pierres précieuses. Dans notre être naturel, nous ne sommes pas précieux. Non. Nous tombons. Lorsque n'importe quoi vient, à la fin, lorsqu'une tempête vient, lorsque la pluie vient, lorsque le vent vient, on a des problèmes. J'ai servi pendant 60 ans et j'ai beaucoup vu. Tout ce que les hommes peuvent bâtir ne peut pas résister, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en Corée, en Nigeria, peu importe où, en Inde. La maison de Dieu est quelque chose de très particulier. C'est pourquoi lorsque Moïse Il est dit dans Hébreux qu'il a été fidèle sur la maison de Dieu. Il a tout fait exactement selon le modèle qu'il avait vu. Si exactement, si précisément, si on lit Exode, on est surpris. Même lorsque tu lis plusieurs fois ce que Exode dit, toutefois c'est difficile de le saisir. N'as-tu pas essayé? Même en lisant plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est bâti ensemble? Chaque détail a été montré à Moïse par Dieu. Et Moïse a tout fait exactement d'après les instructions. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et comment bâtissons-nous? C'est un petit peu mélangé, c'est pas bon. Son micro et le fil. On ne veut pas avoir dans la maison du Seigneur que tout est mis n'importe comment. C'est pas bon. Et par ça, nous devons apprendre. Et pas seulement la maison que nous devons bâtir exactement selon le modèle, mais le service dans la maison. Et si on observe ces vêtements du sacrificateur, les matériaux et comment ils devaient être, ce que le souverain sacrificateur devait mettre, tu vas remarquer, tous les matériaux sont exactement ce que Dieu a fait avec le tabernacle. C'est étonnant. Ça doit correspondre l'un à l'autre. Je ne peux même pas le décrire. Le tabernacle et les vêtements du sacrificateur ont exactement les mêmes matériaux. Nous ne pouvons pas avoir la maison d'une certaine manière et les sacrificateurs servent d'une autre manière. Ça ne va pas. Si nous faisons cela, ça veut dire que nous ne connaissons pas notre Dieu vivant merveilleux. Ce n'est pas sa manière de faire. Apprenez, en toute chose, quand nous servons, va au Seigneur. Demande-lui. Moïse était là, sur la montagne du Sinaï, 40 jours, jour et nuit, car il était devant la présence de Dieu. Combien de fois as-tu pris du temps devant le Seigneur? Après une heure, tu t'endors. Je peux plus. Je ne peux pas continuer après une heure. Un petit peu plus, bien, louez le Seigneur. Qu'en est-il dans la prière? Quel est le plus long temps que tu as passé en prière devant le Seigneur? 15 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais Moïse était 40 jours. Lorsque le Seigneur a voulu choisir, ou est-ce qu'il a dû choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit avec le Père. Il a prié pendant toute la nuit parce qu'il ne voulait pas avoir son propre choix. Il voulait savoir exactement Qui? Qui Dieu a-t-il choisi? Lesquels? Quels jeunes Dieu a-t-il choisi? Nous? Nous choisissons d'après nos bonnes idées. Oui, tel frère est capable qu'il serve. N'est-ce pas? Et celui-ci, oh, ça me plaît. Alors, tu le fais. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Non, le Seigneur n'était pas comme ça. Nous devons voir que le service dans la maison du Seigneur a besoin d'un sacerdoce saint. Et quel est le but? Pourquoi? Est-ce que le Seigneur a servi de cette manière? Je crois que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu a un plan. Nous devons apprendre à être ouverts, à venir à Dieu, à venir à sa parole. Nous devons être ouverts, même si c'est nécessaire, jeûner et prier. Seigneur, comment est-ce que tu veux faire? À quoi ça doit ressembler? Sinon, à la fin, nous faisons tant de choses et Dieu dira, c'est pas ce que je veux. J'espère qu'en tant que sacrificateur, et nous voulons apprendre à servir en tant que sacrificateur, nous devons servir comme Dieu le veut. Et pas être si... faire n'importe comment. Dans le psaume 19, il est parlé de ce péché. Hein, on va lire. Psaume 19. Il est trop petit cet ordinateur. Psaume 19, vers la fin. Louez le Seigneur. On va lire depuis le verset 10, mais depuis le verset 8 jusqu'à la fin. Je vous lis dans Osterwald. C'est plus précis. La loi de l'Éternel est parfaite. Louez le Seigneur. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse au simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à perpétuité. Elle ne change jamais. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que ce qui coule des rayons de miel. Aussi ton serviteur est éclairé par eux. Il y a un grand salaire pour leur observation. Qui connaît ces fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est si merveilleux. Nous devons manger et ruminer cette parole, en rêver. La parole est là afin que nous fassions tout d'après elle concernant l'œuvre pour le Seigneur, notre service pour lui. Premièrement, la crainte de l'Éternel. Si on n'a pas de crainte devant lui, alors on peut faire n'importe quoi et nous faisons tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons être juste. C'est égal ce que je pense. Mais que veut-il? Oui, nos pensées sont vraiment pas meilleures que les siennes. Le Seigneur a dit dans Ésaïe, mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Combien plus élevées? Comme le ciel est plus élevé, si élevé, ses pensées sont si élevées. Et souvent nous pensons que nos pensées sont bonnes, justes. Et que notre méthode est juste, que notre manière est juste. Et ce soir, j'ai dit ça parce que c'est important pour le service d'un sacrificateur. Si tu sers en tant que sacrificateur et que tu ne fais pas exactement ce qu'il a dit, alors pense à Nadab et Abihu. Je crois qu'après qu'Aaron et ses deux autres fils ont vu cela, alors ils ont tous eu peur, ils ont eu de la crainte, ou bien pas. Penses-tu qu'aujourd'hui, on est libéré de ça? Je peux servir Dieu comme je veux? J'ai mon choix? Et à la fin, à la fin de ce service, je suis mort spirituellement. Ce n'est pas un feu qui descend du ciel, mais on est spirituellement mort. Alors on voit qu'il y a tant de choses impossibles, des services très différents parmi les chrétiens. Et nous ne voulons pas répéter cela. Et on doit avoir la crainte du Seigneur. Un frère, ce matin, a dit, il a mentionné dans son offrande, dans Ésaïe 11, parle de l'Esprit qui était sur le Seigneur. Parce que le Seigneur était un serviteur de Dieu sur cette terre. Et comment est-il décrit? Cet esprit, premièrement, un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Dans Ésaïe 11, 2. Souvent, nous ne comprenons pas spécialement les choses spirituelles. Si le Seigneur ne nous montre pas et ne nous donne pas la révélation, comment est-ce que je peux savoir et comprendre? Et même quand il me donne une révélation, jusqu'à ce que je comprenne, ça c'est encore une autre chose. J'aimerais pas être comme ça mélangé. Oui, j'ai compris comme ça. Et comment est-ce que toi tu vois la chose? Alors, on se pose la question, comment lui il voit toute cette chose, ayant de la communion, et on décide, bon, on fait comme ça. Dieu n'a pas besoin qu'on décide de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi nous devons voir que la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Notre compréhension est très déchue. Tu peux apprendre les maths, les ordinateurs, mais les choses spirituelles, célestes, là, notre intelligence est incapable. Même, elle est enténébrée. Et lorsque l'intelligence est enténébrée, alors le cœur est endurci. alors on est coupé de la vie de Dieu. Et alors nous faisons ce que nous voulons. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Là, nous devons craindre. Puis, un esprit de conseil. Dans Ésaïe, dans le même livre, le Seigneur est notre conseiller. Même un conseiller merveilleux, admirable. Es-tu un conseiller dans l'Église, Christian? Tu te réjouis quand les saints viennent vers toi pour recevoir un conseil. Alors, tu es le docteur qui sait tout. Mais le Seigneur est le conseiller. Un conseiller merveilleux. Il sait tout. Et l'esprit que le Seigneur nous a donné est un esprit de conseil. Ce conseil, d'où vient-il? Nous ne pouvons donner que de mauvais conseils. Notre conseil n'est qu'un mauvais conseil à la fin. Mais le conseil du Seigneur est exact et juste. Il est le conseiller. C'était même son nom, le conseiller. Une fois, un frère est venu d'Amérique. Et il a passé ici quelques jours. Il a vu. En allemand, la maison, la mairie, ça s'appelle Maison du Conseil. Mais en anglais, ce mot conseil en allemand veut dire rat. Et il a pensé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une maison pleine de rats? Notre conseil, c'est souvent de mauvais conseils. Il faut le reconnaître. C'est pourquoi, souvent, j'ai peur de donner un conseil à quelqu'un. Je lui dis, va au Seigneur, va vers lui. Je ne suis pas le conseiller. Je ne m'appelle pas conseiller. Je ne peux donner que des rats. Il fait un jeu de mots avec le rat et le conseil. Le Seigneur est le conseiller. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller à lui? Et lui demander, de nous montrer. Et quand il ne comprend, si on ne comprend pas, il faut dire, Seigneur, éclaire-moi, éclaire-moi. Donne-moi la lumière. Éclaire-moi. Tu sais, les sacrificateurs devaient avoir cette attitude. Si on a ce péché d'orgueil, on fait de grandes fautes. On a lu psaume 19. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil. Si on pense, ah, ça va comme ça, ça c'est un péché. Le Seigneur n'a pas dit ça? Et ça ne venait pas du Seigneur, mais je pense que c'est OK. Ça, c'est aussi un péché. Qu'il ne domine point sur moi. Combien de fois cet orgueil domine sur moi? Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Nous devons manger une telle parole. Et nous devons la ruminer encore et encore. Souvenez-vous de la communion que nous avons eue précédemment. Nous sommes des ruminants. Les animaux purs étaient des ruminants. Ça veut dire que nous devons ramener cette parole et la prier devant le Seigneur et penser, ne pas penser, ah, j'ai compris comme ça, mais on ne l'a pas compris. Ainsi, nous avons besoin de son conseil. Lorsque tu ne comprends pas un service, ne va pas d'abord vers les hommes, mais d'abord vers le Seigneur, vers Dieu. Et par l'onction, il va t'apprendre. L'onction nous enseigne toute chose. Elle n'est pas un mensonge. Ça veut dire qu'il ne fait pas de faute. Si tu viens vers moi, je ne sais pas combien de pourcents c'est faux. Ce sont de mauvais conseils que je te donne. Peut-être 99% sont faux. Va d'abord vers le Seigneur. Puis après, on peut avoir de la communion. Apprends cela. On doit apprendre cela en tant que sacrificateur dans la maison du Seigneur. Afin de ne pas faire de grandes fautes. Et à la fin, nous expérimenterons aussi que nous ne dépendons pas des hommes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de communion, mais nous suivons l'agneau. Afin qu'on soit innocent, intègre. L'esprit est un esprit de conseil. Ça veut dire qu'il nous donne des conseils. Si tu as une question, n'attends pas non plus qu'à cette seconde même, le Seigneur te donne des réponses. Non. Sois patient. Parce que bien sûr, il peut. Mais toi, tu ne peux peut-être pas comprendre. Ça, c'est le problème. Tu n'es pas encore prêt à comprendre cela. Ainsi, le Seigneur ne peut pas te donner la réponse tout de suite. Même s'il te donnait la réponse tout de suite, tu n'es pas encore si loin. C'est pourquoi apprends à attendre. Louez le Seigneur. C'est un esprit de conseil. Puis, il dit aussi, c'est un esprit de force. Et lorsque le Seigneur te donne un conseil, alors tu dois aussi par sa force, l'accomplir. C'est encore une autre chose. Ne pars pas tout de suite. Si le Seigneur dit, il te dit, donne un conseil direct, je cours et je le fais avec ma propre force, alors ça ne fonctionne pas. Pardon, excusez-moi, ça c'est le chemin. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour faire une œuvre. Et alors le Père vient avec le Fils pour faire cette chose. Ainsi qu'il a fait. Alors je demande, Père, si tu le fais, pourquoi? Est-ce que tu dois envoyer Jésus? Tu pourrais venir toi-même et le faire. J'étais si insensée. Et, d'un autre côté, je pense que je suis capable de faire quelque chose. Alors je fais tout moi-même sans le Seigneur. Seigneur. Est-ce que ce n'est pas ainsi? Le Seigneur a envoyé son Fils pour faire. Et le Fils a dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que tu penses que le Père se réjouit? Ou est-ce qu'il pense qu'il ne peut rien faire de lui-même? J'ai peut-être envoyé le mauvais homme. Peut-être je devrais envoyer Manu parce qu'il peut tout faire, il sait tout faire tout seul. Dieu n'a pas besoin d'hommes capables dans ce sens-là. Paul était naturellement capable, mais il dit, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Christ, pas moi. Christ en moi, pas moi. Tous les sacrificateurs doivent apprendre cela. Ainsi, Paul emploie souvent dans son service sacerdotal, même lorsqu'il prêche l'évangile dans Romains, il a employé ce mot servir. Il a employé le mot latréo. C'est un mot qui signifie servir en tant que sacrificateur, pas en tant qu'esclave. Alors, notre service, le résultat est différent. Est-ce qu'on va apprendre cela? Est-ce qu'on veut s'exercer? Sinon, à la fin, tu es orgueilleux, tu dis « je l'ai fait ». Ça, c'est encore pire. Alors, tu penses « je suis capable de tout ». Bien sûr, tu es capable de tout, mais aussi tu es capable de faire beaucoup de fautes. Apprendre cela a besoin de temps et d'exercice et de reconnaître. Père, je ne peux pas faire sans toi. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Toutefois, on est si capable. On peut faire tant de choses, mais pour le Seigneur, ce n'est rien. Apprenez, en tant que sacrificateur, à servir de cette manière le Dieu vivant. C'est important d'apprendre. Puis, cet esprit, dans Ésaïe, chapitre 11, est aussi un esprit de connaissance. Est-ce que tu connais tout? Tu connais peut-être beaucoup, mais personne ne peut vraiment comprendre les choses célestes sans son esprit. Et Dieu ne peut pas non plus tout nous montrer, comme si nous étions capables. On a déjà mentionné. C'est pourquoi Pierre a dit, si on vient à la parole, la première chose, c'est de ne pas avoir ses propres interprétations. Pas ses propres interprétations. Sinon, si nous avons ces interprétations personnelles, ça montre bien, c'est ta propre interprétation, pas la sienne. N'est-ce pas? Si c'est ta propre interprétation, c'est la tienne. Et souvent, quand c'est la nôtre, alors ce n'est pas tout à fait juste. Peut-être la moitié juste. Mais la moitié de la vérité, c'est le plus grand mensonge. Alors, à la fin, les gens pensent, oui, c'est ainsi, mais en fait, ça ne l'était pas. Ainsi, humilions-nous tous devant le Seigneur. Nous ne devons pas penser qu'en tant que sacrificateurs, que nous savons tout dans le service. Non. Et c'est pour ça que le dernier point est la crainte de l'Éternel. Sans la crainte, alors, on fait beaucoup de fautes. Nous pensons que c'est OK. Si nous ne craignons pas le Seigneur, nous faisons beaucoup de choses, selon nos propres bonnes idées. Nous faisons quelque chose qui est juste à nos yeux, et à la fin, nous avons des disputes parce que les gens ne sont pas d'accord entre eux. C'est pourquoi chacun a sa propre opinion. Et si chacun de nous a sa propre opinion, on a des problèmes dans le service. À la fin, le résultat, c'est la division. Mais le service du Seigneur, lorsqu'il était sur cette terre, Dieu l'a préparé, pas seulement pour le salut, mais Dieu voulait faire de lui ce souverain sacrificateur. Dieu voulait gagner un souverain sacrificateur dans son Fils, et ça c'est selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse 1 un tel sacrificateur merveilleux qui marche au milieu des chandeliers d'or. Si ce souverain sacrificateur ne marche pas au milieu de nous, alors le service sacerdotal est impossible. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Ça, c'est la chose la plus importante. Et tous les sacrificateurs doivent apprendre de lui. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne un souverain sacrificateur dans sa maison si nous n'apprenons pas de lui? À quoi sert ce souverain sacrificateur parmi nous? Ainsi, c'est important. C'est pourquoi le service sacerdotal, dans ce service, nous devons tous apprendre, nous exercer, être devant le Seigneur et dire « Seigneur, ouvre mes yeux, donne-nous cet esprit » dans Ésaïe 11. Alors, on va relire Ésaïe 11. Tu vois, je fais des fautes. Il a dit Ésaïe. Il disait Ézéchiel. C'est dans Ésaïe 11. Chacun de nous fait des fautes. Ésaïe 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ils vont toujours ensemble, ces deux. La sagesse et l'intelligence. Un esprit de conseil et de force. Ils vont aussi ensemble. Tu ne peux pas seulement avoir un conseil et puis tu fais ce que tu veux, mais tu as besoin de sa force. Puis, un esprit de connaissance. Mais, que dit Paul? Si tu as la connaissance, il dit que la connaissance enfle. Alors, tu penses, je suis super, je sais tout. Alors, tu es orgueilleux. Avec la connaissance vient la connaissance de l'Éternel. Et il respira la crainte. Il respira, dit la connaissance. Non. Qu'est-il écrit là? Respira la crainte. Lorsque tu dois, si tu devais, choisir. Qu'est-ce que tu choisirais si tu pouvais choisir qu'un aspect? Tu choisirais la force. Et toi, tu choisirais la connaissance, bien sûr. Et toi, tu choisirais quoi? Plus de connaissance? L'intelligence? Personne aimerait le dernier point. Mais le Seigneur a choisi le dernier point, c'est important. Il est à la fin, mais c'est plus important que les points précédents. La crainte de l'Éternel. C'est pourquoi dans Hébreux 12, on lit qu'on doit servir avec crainte, afin de ne pas servir avec orgueil et faisons ce que nous voulons, parce que c'est si grave pour un serviteur de faire ce qu'il veut, alors tu n'es plus un serviteur. Tu sais mieux que le maître. Un serviteur doit avoir de la crainte. Puis il a dit, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Tous les sacrificateurs doivent apprendre cela. Il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un ouï-dire. Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Aujourd'hui, regarde, partout les mensonges sont répandus et tous croient cela tout de suite. Sans éprouver, ils n'ont pas de crainte de l'Éternel. Ils croient tout. Et ceux qui répandent le mensonge n'ont pas non plus de crainte de l'Éternel. Ils répandent le mensonge partout. Sans crainte. Vraiment. Seigneur, c'est si merveilleux. Quel merveilleux serviteur le Seigneur était sur cette terre. Puis alors, il peut juger les pauvres avec justice et il peut décider avec droiture pour les malheureux. Il frappera la terre de sa parole. Il était un avec le Seigneur et il fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Alors, il est capable aussi de juger. Aujourd'hui, les juges de ce monde sont ceux qui brisent la loi. On le voit particulièrement en Amérique, que les juges eux-mêmes sont injustes. Comment donc peuvent-ils juger? C'est ce qui s'est passé à New York. Vous avez lu les journaux, n'est-ce pas? Vous avez écouté les nouvelles. Tout est à l'envers. Et ils n'ont pas de crainte. Nous ne devons pas servir ainsi le Dieu vivant. Dieu est juste, il est saint, il est glorieux. Comment pouvons-nous le servir comme nous voulons en tant que sacrificateur? C'est pourquoi il y a des instructions très claires pour ceux qui sont sacrificateurs. Ce ne sont pas pour tous les croyants là-dehors, le peuple. C'est pourquoi être sacrificateur, c'est un privilège, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. On doit apprendre la base pour le service que nous voyons dans ce résumé, c'est ici, dans Ésaïe 11. Oui. Si on saisit Ésaïe 11 et qu'on le pratique et qu'on l'expérimente, alors, louez le Seigneur, on peut servir en tant que sacrificateur. Sinon, ça ne peut pas être d'une autre manière. Ça veut dire qu'on doit servir comme le Seigneur a servi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé. Ce vêtement du sacrificateur, on n'a plus le temps de parler probablement de ses vêtements. Il y a les vêtements pour le souverain sacrificateur et pour les fils d'Aaron. Et eux devaient avoir tous un vêtement blanc. Et aussi des caleçons blancs. Et la raison, c'est pour que la chair ne soit pas exposée. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas servir selon la chair. Celui qui sert selon la chair, à la fin, il est mort. Romains 8 dit, comme notre sœur l'a lu, la pensée placée sur la chair, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Tu ne peux rien faire. Mais si nous plaçons la pensée sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Pourquoi y a-t-il tant de morts parmi nous, les chrétiens, lorsque nous servons? Il y a tant de disputes. On ne peut pas être un, chacun a son opinion. Et il y a de la jalousie, des disputes. Chacun aimerait la puissance, une position dans l'Église, dans ton corps. Sultan, y a-t-il une position? Est-ce que la main a dit, moi, j'ai une meilleure position que le pied? Non, jamais. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de position, de puissance. Je ne peux pas dire que cette partie est meilleure que l'autre. Mais souvent, dans les organisations humaines, on pense, nous sommes l'Église. Il ne s'agit pas de ce que nous disons, mais de ce que le Seigneur dit. Je peux dire n'importe quoi, mais ça ne sert à rien. Regarde, dans Apocalypse 2 et 3. Que dit le Seigneur? Il n'a pas dit grand-chose de bon. Nous voulons tous écouter, entendre des bonnes choses. Mais si le Seigneur nous parle, il n'a pas dit souvent grand-chose de bon. Que veux-tu? Que préfères-tu entendre? Si le Seigneur t'aime, il va te corriger. C'est pourquoi, à la fin, à l'Église, à Laodicée, il dit, « Celui que j'aime, je le rejette ?» Non. Il dit, « Je le reprends. Je châtie celui que j'aime. » Est-ce qu'on est prêt à être châtié par lui? Aussi à souffrir, expérimenter des souffrances? Le Seigneur utilise aussi ces différentes persécutions pour nous châtier. Nous pensons, oh, ils sont contre nous et tout ça, mais le Seigneur emploie aussi cela pour nous châtier. Si nous voyons cela, alors nous nous réjouissons. Alors on ne sera pas fâché et on ne se disputera pas. Le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime. Louez le Seigneur. Alors il nous montre le chemin. C'est aussi de cette manière que nous devons servir en tant que sacrificateurs. Le Seigneur aimerait que nous le revêtions, pas seulement en tant que nouvel homme, ça c'est un peu général dans le Nouveau Testament. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous du nouvel homme. Ça, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à vivre, à expérimenter? Mais le nouvel homme doit toujours être renouvelé. Oui, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Ne pense pas, pourquoi? Est-ce que quand tu le revêts, tu es directement complètement nouveau, Marcus, après avoir revêtu le nouvel homme. Alors maintenant, chaque jour, je suis nouveau. Ce serait bien. Dans notre expérience, ça doit être renouvelé tous les jours. Ce n'est pas une fois pour toutes que nous sommes renouvelés. Ce serait merveilleux. Ce serait un miracle, mais non. L'homme intérieur doit encore être fortifié dans l'amour. Il est fondé et enraciné. Alors, on est fort pour saisir toutes les richesses de Christ. Ainsi, on doit apprendre. Ne soyez pas découragés d'avoir fait des fautes, mais apprenez. Utilisez les fautes pour apprendre. Les fautes sont là pour que nous apprenions. Alors, la vraie faute, c'est quand nous n'apprenons pas. Ça, c'est une vraie faute. Une grande faute. Le Seigneur n'a pas peur que nous fassions des fautes. Mais, si nous apprenons de ces erreurs, alors nous grandissons. Les enfants font beaucoup de fautes. Pas seulement. Les enfants n'apprennent pas seulement de l'école, mais ils apprennent des fautes. Je peux témoigner que j'ai plus appris de mes fautes que de livres. Il s'agit de la vie. Il ne s'agit pas seulement de la connaissance. Nous apprenons. Ah non, celui qui apprend, il fait des fautes. C'est très différent d'un péché. Louez le Seigneur. Ainsi, apprenez à perfectionner ce service de sacrificateur. Vous pouvez vous-même lire le résumé, les versets sont là. Mais sans cet arrière-plan, ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça, lorsque Jésus est venu en tant que serviteur de l'Éternel, il n'a pas juste servi comme un serviteur, mais il l'a servi en tant que sacrificateur. C'est pourquoi dans Hébreux, il est dit, Hébreux, c'est pas seulement un service normal. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Si nous ne voyons pas cela, si nous n'avons pas Hébreux, on ne sait pas que le service du Seigneur sur cette terre était un service de sacrificateur. Dieu l'a envoyé pas seulement pour mourir à la croix, pour notre rédemption. Dieu l'a envoyé pour faire de lui un souverain sacrificateur, même selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice. Et nous, nous servons sans justice, parce que nous sommes injustes, nous sommes déchus. Le péché habite dans notre chair. Mais en lui, il n'y a pas de péché. Et toutefois, il est venu à la ressemblance de l'homme. Et il était sans péché, par contre. La chair de l'homme est déchue. Et alors, dans son service, Dieu voulait faire de lui ce souverain sacrificateur. Pas de la Jérusalem terrestre, mais maintenant, il est dans le tabernacle céleste, qui n'est pas fait de main d'homme. Ça me plaît tellement. Parce que je n'ai que des mains humaines. J'ai dit au Seigneur, tellement souvent, malheureusement, je ne peux rien faire parce que je n'ai que des mains humaines. Je ne peux même pas bâtir une maison terrestre pour moi-même. Combien plus la maison de Dieu. Louez le Seigneur. notre service, nous devons apprendre de lui. C'est pourquoi le but du salut, c'est de nous transformer en son image. La transformation est importante. Dieu n'aimerait pas seulement avoir des enfants qui ne sont pas comme le premier-né. Le premier-né est comme un modèle et tous les autres qui viennent doivent être selon ce modèle. Toi, tu travailles pour BMW. Lorsqu'un nouveau modèle vient, il y a d'abord un modèle. Et tous disent, oui, c'est bien. Alors vient la production. Et toute la production doit être exactement comme le modèle. Est-ce que tu penses que Dieu aimerait avoir tant d'enfants différents? Certains se disputent et sont ainsi ou autrement. Est-ce que tu penses que Dieu aimerait de tels enfants? Galates 4 nous dit que de tels enfants ne peuvent pas hériter. Mais Dieu a beaucoup à faire. Il aimerait nous rendre semblables au Fils premier-né. C'est un travail difficile. C'est pourquoi nous avons besoin de tant de temps. Et maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Ainsi, il faut racheter le temps. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut utiliser chaque occasion pour gagner Christ. C'est pour ça que le service sacerdotal est si important. Nous voulons des expériences concrètes de Christ, pas juste n'importe quoi. Seigneur, j'aimerais te connaître et te saisir. Ça, c'était l'attitude de Paul. Pas un petit peu d'expérimenter, mais de saisir. J'aimerais avoir des expériences solides avec le Seigneur. Louer le Seigneur. Nous devons tous apprendre. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Il est 9h. C'est le bon moment. Je n'aimerais pas parler plus longtemps. Apprenez cela. C'est un fardeau du Seigneur. Que le Seigneur obtienne parmi nous ce sacerdoce céleste. Je crois que vous êtes convaincus que c'est ce que le Seigneur veut. Louez le Seigneur.